C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 22 novembre 2022 et aujourd'hui nous allons parler de don de gamètes et de procréation médicalement assistée, plus connue sous l'acronyme PMA.
D'ailleurs, depuis la loi du 2 août relative à la loi bioéthique, la PMA a été étendue à plus grand nombre de personnes, en l'occurrence les femmes célibataires et les femmes lesbiennes en couple.
L'occasion pour nous de revenir sur le fonctionnement des dons de gamètes, comment est-ce que cela fonctionne, pourquoi et pour qui donner, quel changement engendre la loi bioéthique. Pour parler de ces sujets et répondre à toutes ces questions, nous allons recevoir Marie-Ange Clarotti, interne en biologie médicale au CHU de Caen.
Mais avant, c'est les infos sciences de la semaine. C'était ce dimanche la fin de la COP27 en Égypte, et ce qu'on peut dire, Simon, c'est que le bilan est plutôt contrasté.
Contrasté tout d'abord à cause de nombreux désaccords qui ont émaillé les pays présents. Au centre des débats, l'aide financière des pays les plus riches auprès des pays les plus pauvres qui n'a pas été si simple à faire passer. Les pays les plus pauvres n'ont pourtant pas eu de cesse de répéter autour de cette COP qu'ils sont ceux qui payent les conséquences en premier, alors qu'ils sont ceux qui polluent le moins.
Et autre déception, le manque d'ambition sur les mesures prises.
Oui, et en particulier celle autour de l'objectif de la limitation du réchauffement à 1,5 degré, un objectif qui a failli être supprimé à cause de la Chine et de l'Arabie Saoudite qui trouvaient cet objectif trop contraignant. Autre symbole du manque d'ambition écologique de cette COP, l'échec de l'élimination progressive des combustibles fossiles. 6 ronagrammes, c'est apparemment le poids de notre planète, mais aussi un nouvel ordre de grandeur.
Oui, un ordre de grandeur nécessaire pour la science moderne. En effet, les chercheurs ont besoin de toujours plus de termes et de lexique pour nommer leurs découvertes. C'est chose faite avec cette nouvelle unité de mesure décidée ce vendredi 18 novembre à la conférence générale des poids et des mesures à Versailles. Le ronagramme et le quatmètre sont donc entrés en vigueur dans le monde de la recherche pour répondre à des problématiques toujours plus grandes ou plus petites. Cela faisait 3 décennies que le système international, mis en place en 1960, n'avait pas mis en place de nouveaux ordres de grandeur.
Mais du coup, il correspond à quoi cette nouvelle ordre de grandeur ?
Eh bien, les préfixes RONA, désignés avec un grand R, et KETA avec un grand Q, expriment des quantités de 27 à 30 zéros derrière l'unité. De l'autre côté, pour l'infiniment petit, il existe le RONTO, désigné avec un petit R, et le QUECTO avec la petite lettre Q, avec, pareil, 27 à 30 zéros derrière la virgule. L'apparition du numérique a poussé les chercheurs à mesurer des éléments toujours plus grands ou toujours plus petits. À noter que les seules lettres à ne pas être utilisées pour d'autres unités sont le R et le Q. Finalement, avec tout ça, on apprend que la Terre pèse 6 ronagrammes et que les chercheurs devaient être tranquilles avec les ordres de grandeur pendant au moins 20 ans avant d'en chercher de nouveau. La vie en captivité des animaux est définitivement un frein à une éventuelle survie en milieu sauvage.
Et ça n'est pas une grande surprise, des chercheurs se sont penchés sur les effets de la captivité sur les animaux sauvages et ont découvert que cela impactait leur physique et leur comportement au fil des générations. Ça aurait donc pour incidence de sérieusement compromettre leurs chances de survie s'ils étaient amenés à être réintroduits à l'état sauvage.
Et comment cela se manifeste ?
Si on prend l'exemple du lion, animal typiquement censé vivre à l'état sauvage, on remarque que la captivité a déformé au fil du temps ses os crâniens, ce qui a eu pour impact d'amoindrir sa force de morsure, et donc vous vous doutez bien qu'il serait plus compliqué pour ce genre de lion de chasser et donc de survivre en milieu sauvage. Depuis quelques années, on s'est habitué à de nouveaux formats culturels, la liseuse, le streaming, mais on peut imaginer qu'il y a un impact environnemental avec ces nouveaux modes de consommation.
Eh bien Simon, une étude a publié récemment et répond clairement à ta question. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a dévoilé ça le vendredi 18 novembre. Faisons un petit récap. D'abord pour les livres, selon l'ADEME, si vous achetez au moins de 10 livres papier par an, il n'est pas nécessaire de s'acheter une liseuse. Au-dessus de 10 livres, votre impact écologique est moindre avec une liseuse électronique. Pour ce qui est des films et de la musique, cela paraît logique, acheter un CD ou même un film pour l'écouter, regarder 2 ou 3 fois maximum n'est pas positif pour l'environnement, mieux vaut privilégier le streaming. Il faut cependant prendre en compte l'équipement que vous utilisez, fabriquer un ordinateur portable consomme 4 fois plus de CO2 qu'un téléphone, on peut réduire la consommation d'énergie en téléchargeant durant les heures creuses, en réduisant la qualité de la vidéo ou en téléchargeant avec le Wi-Fi et non pas avec la 4G ou la 5G. On vous conseille donc de regarder votre film à 2h du matin en 144 pixels sur votre téléphone avec évidemment le chauffage éteint. Une bonne nouvelle pour la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris qui s'est vu récompensée d'une place dans le classement des meilleurs musées du monde.
Oui, ils sont 12 à figurer dans cette liste publiée hier par Civiatis, un guide de voyage en ligne. Et parmi eux, un Français, donc la Cité des Sciences, située dans le 19e arrondissement de Paris. Cet établissement, encore jeune, il n'a que 36 ans, attire plus de 6 millions de visiteurs par an.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que la Cité des Sciences est autant prisée ?
La Cité des Sciences possède un atout phare, c'est sa capacité à tenir en permanence des expositions sur de nombreuses thématiques diverses et variées, qui savent à chaque fois s'adresser à un public de tout âge. On a pu, par exemple, voir des expositions sur le cerveau, l'astronomie ou encore la technologie des transports. D'ailleurs, en ce moment même, cohabitent des expositions sur le cancer, les foules ou encore la fragilité.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Il y a quelques semaines, Rémi a reçu dans Fact News Annie Benahim, professeure au CHU de Caen, et cette dernière nous alertait sur le manque de donneurs de gamètes.
L'occasion pour nous de remettre en avant à travers notre émission ce sujet qui peut paraître vague mais qui est pourtant d'actualité, notamment avec la loi bioéthique votée l'année dernière ou encore le rapport inquiétant de scientifiques alertant sur la baisse de qualité du sperme chez les hommes.
Pour en parler, nous recevons Marie-Ange Clarotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interne en biologie au CHU de Caen. Aujourd'hui, à quoi sert le don de gamètes ?
Alors, je suis plus interne depuis un petit moment, mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez me redire la question ?
Aujourd'hui, à quoi sert le don de gamètes ?
Le don de gamètes sert à aider des couples à avoir un enfant, des couples qui sont en difficulté. Donc, parfois, l'homme n'a pas de spermatozoïdes ou en produit très peu. Et donc, la seule façon pour eux d'avoir un enfant, c'est de recourir à un donneur. Il y a des couples aussi pour qui la femme produit très peu d'ovocytes. On appelle ça l'insuffisance ovarienne. Et ces couples sont orientés également vers le don d'ovocytes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la loi de bioéthique a ouvert les possibilités en PMA de prendre en charge les couples de femmes et les femmes seules, qui ont recours également au don de gamètes.
Alors justement, comment se passe cette PMA ? Comment cela fonctionne ?
Pour donner ces gamètes, pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 45 ans. Être en bonne santé. Pour les femmes, c'est entre 18 et 38 ans. Pour donner, il y a deux parcours qui sont assez différents entre les femmes et les hommes. Pour les hommes, il y a une rencontre avec une généticienne qui voit si dans la famille du donneur, il y a des maladies qui pourraient être graves et transmissibles à l'enfant. Il y a une rencontre avec la psychologue du service. Il y a une prise de sang à faire pour vérifier les sérologies, le VIH, les hépatites. Et puis, une fois que le dossier est validé, le donneur vient au laboratoire faire un recueil de sperme pour qu'on puisse congeler des spermatozoïdes.
Est-ce qu'il y a une différence entre le don de gamètes mâle et le don de gamètes femelle, que ce soit sur la méthode de prélèvement ou derrière sur l'utilisation ?
Oui, justement. Comme je vous le disais, les donneurs de sperme viennent au laboratoire faire un recueil. Pour les donneuses d'ovocytes, pour donner ces ovocytes, il faut voir une gynécologue. Il y a aussi le rendez-vous avec la généticienne et la psychologue. La gynécologue va prescrire un traitement de stimulation des ovaires. Donc pour pouvoir stimuler, qu'on ait suffisamment d'ovocytes. Et le traitement dure une dizaine de jours. Et ensuite, il y a un passage au bloc opératoire sous anesthésie locale. Il dure à peu près un quart d'heure. Vous pouvez ressortir en fin de matinée. Pour le recueil des ovocytes. Donc c'est quand même, on va dire, plus contraignant pour les femmes. Mais il y a quand même plus de femmes qui se présentent pour donner leurs ovocytes que d'hommes, leurs spermatozoïdes, alors que le recueil paraît quand même plus simple chez un homme.
Aujourd'hui, les stocks de gamètes, ils sont bas. Vous appelez régulièrement aux dons. Comment on fait pour convaincre les gens de donner ?
Ça, c'est pas évident. Disons que ceux qui se présentent, souvent, ils ont une sensibilité particulière. Ils connaissent des couples en infertilité. Donc, ils sont sensibilisés par leur famille, leurs amis. Ce qui nous aide beaucoup, c'est les campagnes de com. Donc, il y a l'Agence de la biomédecine qui organise tous les ans une grande campagne d'information pour sensibiliser aux dons. Puisque le don, ça reste quand même tabou. On n'en parle pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc ces campagnes nous aident beaucoup, ça permet vraiment de sensibiliser un plus grand nombre de personnes.
Et aujourd'hui ils sont bas parce qu'ils ont baissé ou parce qu'ils ont de toute façon été historiquement toujours très bas ?
Alors il y a deux choses différentes. Pour le don de sperme, on a un stock de spermatozoïdes congelés. Avec le changement de loi, alors peut-être qu'on va l'aborder tout à l'heure, il y a une levée de l'anonymat. Donc, on a un nouveau stock de gamètes à faire. Pour les donneuses d'ovocytes, c'est différent, puisque une donneuse, quand on va recueillir les ovocytes, on va obtenir une quinzaine d'ovocytes. Ça va bénéficier à quelques couples, deux couples, trois couples au maximum, qu'un donneur, quand il vient donner, on peut utiliser ses gamètes pour beaucoup plus de couples.
Vous avez parlé de tabou sur le don de gamètes. Qu'est-ce qui explique ce manque de dons? C'est quoi, les gens ne sont pas à l'aise avec la question? Qu'est-ce que c'est?
Ça peut être ça, oui. Déjà pour les femmes, c'est quand même contraignant d'aller au bloc opératoire. Pour le don de sperme, c'est vrai qu'on n'en parle pas... On n'en parle pas au lycée. La fertilité, on commence à en parler au lycée, mais après, c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas. On n'en parle pas à la télé, on ne voit pas vraiment beaucoup d'informations sur le sujet.
Il y a un manque vraiment de prévention sur le sujet. Il faudrait plus aller vers les jeunes.
Bah oui, c'est pour ça que je suis là.
Et comment on a déjà un peu expliqué comment on convainc, mais... Comment on peut la faire, cette prévention, à travers les médias notamment, mais est-ce que peut-être il y a des interventions aussi dans des milieux scolaires pour lever le tabou et expliquer, même peut-être expliquer, vulgariser ce que c'est que le don de gamètes?
Alors on l'a fait déjà dans un lycée. C'est vrai qu'au lycée, les gens sont très jeunes. C'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. On a fait des campagnes d'information à la fac. Ça marche beaucoup mieux, notamment à la fac de médecine où ils ont des cours... particulièrement sensibilisant. Donc, c'est vrai qu'on a plus d'impact, je pense, à la fac.
Anne Bédaïm, dont on parlait tout à l'heure, nous alertait en particulier sur le manque de dons de gamètes concernant différentes ethnies. Comment cela s'explique et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une diversité au niveau des gamètes qu'on récolte?
Alors, comment expliquer qu'on a très peu de donneurs d'origine ethnique différente? Peut-être que c'est culturel, le don est peut-être encore plus tabou dans certaines cultures. On a un manque cruel de donneurs, par exemple, d'origine africaine, d'origine antillaise. Les donneuses également, on n'en a pas depuis plusieurs années. On a forcément des couples qui sont de ces origines-là, qui ne peuvent pas bénéficier du don ou qui ont des délais d'attente très très longs à cause de ce manque.
Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir une cohérence entre l'ethnie du donneur et celle du receveur? Est-ce que c'est vraiment que médicalement ça ne peut pas fonctionner ou est-ce que c'est simplement une préférence ou...
Bah, médicalement ça fonctionne, hein, évidemment, mais vous mettez à la place d'un couple pour qui l'homme est africain, ils vont avoir recours à un don de gamètes d'un donneur caucasien. Ça peut être compliqué d'avoir un enfant au phénotype, à la peau blanche, quoi.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place à Caen? À qui est-ce qu'on peut s'adresser pour être donneur ou alors receveur?
Alors, vous pouvez, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez aller sur le site du CHU, où il y a des pages d'information. Le site de l'Agence de la biomédecine, qui est très, très bien fait et qui vous oriente directement vers le centre le plus proche et où il y a nos coordonnées.
Dans l'histoire, à partir de quand est-ce qu'on a décrété que le don de gamètes devait exister? À partir de quand est-ce qu'on a estimé que c'était utile à la société?
Alors, il me semble que le don de sperme, ça a commencé dans les années 70-80. Alors, vous dire pourquoi on a dit oui, maintenant on a besoin de donneurs, là, je ne saurais pas vous dire.
Et quand on pense don de gamètes, au premier abord, on pense don de sperme, mais on ne pense pas nécessairement au don d'ovule. Est-ce qu'il y a un écart entre les stocks de sperme, de don de sperme et d'ovule?
Alors, on ne peut pas parler de stock pour les dons d'ovocytes. Le don de sperme, oui, il y a du stock, puisqu'on congèle des spermatozoïdes qu'on peut après réutiliser plus tard. Les dons d'ovocytes, on le fait en direct. C'est-à-dire qu'on ne va pas congeler des ovocytes, ce qui peut être délétère pour les ovocytes, on les utilise, on va dire, à frais. Donc, il n'y a pas de stock d'ovocytes congelés.
Je voulais faire un petit point vocabulaire, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on utilise plus le terme ovule. Vous utilisez le terme ovocyte. C'est quoi la différence entre les deux?
Ovule, je dirais que c'est le terme un peu plus vulgarisé. Dans la communauté scientifique, c'est ovocyte qu'on utilise.
On a parlé tout à l'heure de l'accompagnement des donneurs de gamètes. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour les receveurs?
Oui, tout à fait. Il y a un accompagnement, déjà toute l'équipe d'AMP, donc il y a un accompagnement par les gynécologues, par la psychologue, par les biologistes, les sages-femmes. Tout ça, ça permet d'avoir des parcours où les gens déjà soient orientés dans les bons parcours. Ça permet de répondre à leurs questions et éventuellement lever leur réticence sur le don.
C'est un accompagnement qui est long, qui se fait peut-être plus en amont ou plus en aval. À quoi ça ressemble ce parcours au niveau de son organisation ?
Alors, tout d'abord, les couples rencontrent la gynécologue pour faire le bilan de l'infertilité. Ensuite, quand le diagnostic de l'infertilité est posé, qu'on sait la cause, là, on oriente les gens pour dire, on va faire une fécondation in vitro, une insémination, ou là, il faut un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Donc, tout cet accompagnement, il se fait avant le don. Le délai, ça dépend. Le délai pour un don de sperme, actuellement, c'est entre 6 mois et 1 an. Pour les dons d'ovocytes, c'est 18 mois, 2 ans.
Donc, il y a des critères aussi donc, pour les personnes qui donnent le sperme. Est-ce qu'il y a des critères pour les receveurs aussi ?
Les critères, non, on va... Non, il n'y a pas de... Enfin, je ne comprends pas trop votre question.
Qui a le droit aujourd'hui de bénéficier de ces dons ?
Eh bien, pour les couples, il faut, en termes d'âge, il faut avoir moins de 45 ans pour les femmes pour bénéficier d'une insémination. C'est 43 ans pour avoir une ponction d'ovocytes. Et pour le conjoint, c'est avoir moins de 60 ans.
C'est l'histoire de peut-être de danger corporel lié à l'âge, ces limites, elles sont posées à cause de quoi ?
Oui, il y a déjà une grossesse à 45 ans, c'est forcément
c'est plus compliqué.
Plus compliqué qu'à 30 ans. C'est essentiellement, oui, pour des raisons médicales.
On va faire une petite pause musicale, écouter Bibio avec son titre Fools. On revient dans un instant, à tout de suite sur Radio Phoenix.
Thank you.
C'était Fools de Bio, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Marie-Ange Clarotti, docteur en biologie médicale, pour parler de dons de gamètes et PMA. Alors, il existe aujourd'hui différents types de PMA, quelles sont-elles ?
Alors, il y a plusieurs possibilités pour une prise en charge en aide médicale à la procréation. Donc, il y a les inséminations intra-utérines et la fécondation in vitro. Les inséminations, alors je ne sais pas si on reste dans le cadre du don ou si on parle
on
un peu de la
MP
en,
en
général. Les inséminations, donc on stimule la femme et puis ensuite on replace les spermatozoïdes du conjoint ou du donneur dans l'utérus avec un cathéter. La fécondation in vitro, où là on va stimuler la femme un peu plus fort pour avoir plus d'ovocytes. On recueille les ovocytes au bloc opératoire et on les met en contact avec les spermatozoïdes au laboratoire. On obtient ensuite des embryons, donc on va pouvoir replacer dans l'utérus pour obtenir la grossesse.
Pourquoi est-ce qu'on choisit à un moment donné de faire appel plus à une méthode qu'à une autre ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres méthodes qui se développent ? Est-ce que c'est figé ? Pourquoi autant de méthodes ?
Alors, il n'y a pas vraiment d'autres méthodes qui vont se développer. C'est vraiment en fonction du diagnostic qu'on a fait, de la cause de l'infertilité. Une dame, par exemple, qui a les trompes qui ne fonctionnent pas, ou ça ne peut pas passer, on aura pu d'emblée recours à la fécondation in vitro.
Est-ce que ça fonctionne à tous les coups ?
Non, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Les chances de grossesse en insémination, c'est 15 à 20%. Les chances de grossesse en FIV, on est autour de 25-30%.
Et qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas fonctionner ? Est-ce que c'est des fois juste pas de chance ou est-ce que des fois il faut juste se résigner à se dire que de toute façon ça ne sera pas possible ?
Ça dépend de la qualité des gamètes. Donc des fois quand on a un problème de qualité d'ovocytes par exemple, un problème de fonctionnement ovarien, on aura beau faire une fécondation in vitro, ça pourra dans certains cas ne jamais fonctionner et on orientera justement vers le don d'ovocytes, si c'est le cas.
D'où l'intérêt d'avoir vraiment des données en bonne santé. Et même si, donc, visiblement, des fois, ça ne fonctionne pas, on peut ne pas prévoir.
On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est contenu dans la récente loi bioéthique ? Qu'est-ce qui change et qui était impossible avant ?
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules. Également, par rapport au don de gamètes, la levée de l'anonymat. C'est-à-dire qu'avant, le don était complètement anonyme. L'enfant ne pouvait pas avoir accès à l'identité du donneur. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'enfant qui est né d'un don peut demander à sa majorité, à une commission qu'on appelle la commission d'accès aux origines, l'identité du donneur ou des informations non identifiantes. Donc, il a le choix de ne pas vouloir demander l'identité. Les informations non identifiantes, ça correspond par exemple à l'âge qu'avait le donneur au moment du don, sa profession, s'il avait lui-même des enfants, son état de santé, ses motivations au don, voilà, sans forcément révéler son identité.
Et pourquoi est-ce que ce choix a été fait de lever l'anonymat ? Qu'est-ce qui a poussé cette décision ?
Alors, il y avait beaucoup de demandes d'enfants nés de dons qui se retrouvaient en difficulté, qui ont appris qu'ils étaient nés d'un don tardivement. Donc, on imagine les conséquences de ces annonces. Donc, ces enfants qui se sont regroupés sous une association, qui ont fait des demandes depuis plusieurs années, qui militent pour cette levée de l'anonymat. Depuis quelques années, il y avait le développement des tests génétiques sur Internet. Ces tests sont illégaux, mais ils étaient faits par des enfants nés du don et certains ont retrouvé leur donneur en faisant ces tests-là. Donc, finalement, maintenir l'anonymat n'avait plus vraiment de sens puisqu'on pouvait avoir recours à ces tests pour éventuellement retrouver son donneur.
Mais donc du coup, cette levée d'anonymat, est-ce qu'elle est rétroactive ? Ceux qui sont nés d'une PMA avant 2021 peuvent aujourd'hui trouver qui était le donneur ? Ou est-ce que c'est uniquement à partir des enfants qui vont naître en 2021 ?
Alors oui, effectivement, il y a une part de rétroactivité. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né avant ce changement de loi peut demander à la commission d'accès aux origines. Et cette commission est chargée de recontacter l'ancien donneur pour avoir son accord. Donc, il peut y avoir un refus de la part du donneur de transmettre ces informations, puisque ce donneur a donné au moment où c'était anonyme. Donc, on suppose que certains ne voudront pas donner l'information.
Et est-ce que la levée de l'anonymat, ça a eu un impact sur vos stocks de gamètes ?
Alors, pas sur les stocks. Par rapport aux donneurs qui se présentent, on avait peur de ça, qu'il y ait une chute du nombre de dons. Ce n'est pas le cas. Ça reste équivalent. On a toujours des donneurs qui se présentent, des donneuses. Il y a eu aussi, suite au changement de loi de bioéthique, un boom dans les dons. Par solidarité, je pense aux couples de femmes et aux femmes seules.
Oui, c'est ça. Donc, s'il y a plus de dons, c'est tant mieux. Mais est-ce que, d'un côté, est-ce qu'il y a aussi peut-être plus de demandes qui fait que ça ne... Même s'il y a plus même s'il y a plus de donneurs, il y a peut-être trop de demandes encore pour l'instant?
Exactement, oui. Il y a eu énormément de demandes depuis la levée, la loi de bioéthique. Donc, beaucoup de couples de femmes. On est, depuis un an, on est à plus de 150 demandes de couples de femmes. Les femmes seules, encore plus. On est à 200, 250 demandes depuis le début, depuis le changement de loi. Donc, pour répondre à ces demandes, c'est vrai que on a encore du stock de sperme congelé pour le don, mais ce stock diminue.
Alors, c'est un débat un peu éthique qui a divisé la société. Est-ce que c'est aussi le cas dans le milieu de la santé, de la recherche ? Est-ce qu'il existe un consensus ?
Non, il n'y a pas de consensus. Il y a eu, je pense, beaucoup de discussions au sein des centres sur... Il y avait les sensibilités de chacun aussi qui pouvaient varier par rapport à ce changement de loi. Nous, c'est vrai que par rapport au... je parle de la levée de l'anonymat. On était un peu réticents parce qu'on avait peur que les couples qui reçoivent un don de sperme, par exemple, ne disent plus à l'enfant son mode de conception. Parce que s'ils leur disent plus, eh ben, il n'y a plus de demande de l'identité du donneur à sa majorité. C'est pas ce qu'on a vu après en pratique. Les couples, il y a toujours autant de demandes de couples et ils comptent toujours en parler à leur enfant de son mode de conception.
Mais quand vous dites la peur qu'ils ne le disent plus, c'est... de tout simplement cacher que l'enfant est né d'une PMA, c'est ça,
oui.
pour éviter derrière.
Okay.
Et est-ce que vous pensez que cette loi va être amenée à évoluer, à être élargie à d'autres couples, d'autres catégories de personnes ?
On verra dans quelques années. je pense que oui, elle évoluera forcément avec la société.
Forcément, ça évolue, donc on imagine que c'est plus facile aujourd'hui d'avoir recours à la PMA. Mais est-ce que malgré tout, ça reste un chemin simple ou est-ce que c'est quand même... très long, très fatigant, on imagine aussi, peut-être moralement, d'avoir recours à la PMA.
C'est un parcours qui n'est pas simple, effectivement. Déjà, quand les couples arrivent, ils ont une infertilité, ils ont essayé d'avoir un enfant depuis un an, deux ans. Le temps de faire le bilan, ils arrivent en AMP, ça fait peut-être déjà 3-4 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant. Et là, il faut qu'ils fassent des traitements. Donc, c'est un parcours qui est... qui est laborieux, sans garantie de grossesse au final.
Ça prend combien de temps à peu près entre la demande et la PMA ?
Alors dans le cadre du don, c'est à peu près 6 mois, 1 an. Pour les dons de sperme, pour les dons d'ovocytes, c'est 18 mois jusqu'à 2 ans. Un parcours AMP sans don, je dirais qu'on est en moyenne à 6-9 mois.
Et à ça, on peut aussi ajouter le temps qui peut être pris, vous l'avez dit, pour faire l'enfant, réessayer, se rendre compte que ça ne fonctionne pas, et aussi le temps d'accepter parfois une infertilité, ça peut être difficile à entendre.
Bah, tout à fait, notamment dans le cadre du don, il y a tout un travail de deuil de sa fertilité à faire avant d'entamer ce processus.
Est-ce que face parfois à la lenteur de l'administration ou de l'attente, est-ce que parfois il y a des couples qui renoncent carrément à faire une PMA ?
Oui, il y a des couples qui arrêtent la démarche. Je ne saurais pas vous dire les chiffres, mais oui, il y en a, c'est sûr.
Et ce renoncement, est-ce qu'il peut aussi être dû au fait que certains n'acceptent pas tout simplement d'avoir un enfant qui ne serait pas d'eux biologiquement ? Et finalement, une fois qu'on leur dit qu'ils sont infertiles, ils n'envisagent même pas la PMA. Ça arrive ou ça reste très minoritaire ou même quasiment inexistant ?
Ça arrive. Je pense que ça reste minoritaire. Les gens vont quand même vers l'AMP pour rien avoir à regretter, avoir fait tout ce qui est possible de faire. Dans le cadre du don, Je suis plus mitigée. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ne demanderont pas de don parce qu'ils ne peuvent pas concevoir avoir un enfant qui n'ont pas leur gène.
On a parlé un peu en début d'émission. Des récentes études ont tendance à montrer que la qualité des spermatozoïdes chez les hommes est en baisse constante. À quoi cela est dû ?
C'est difficile de vous répondre. C'est vrai qu'on le voit, la qualité des spermes diminue. Est-ce que c'est lié à l'environnement, aux perturbateurs endocriniens, au mode de vie, de consommation ? Sans doute.
Et du coup, on imagine que c'est encore plus que jamais d'actualité d'inciter les gens à encore plus donner davantage.
Oui, justement, pour aider ces couples, c'est vrai que je suis contente d'être là pour essayer de sensibiliser au manque cruel de donneurs. Tout le monde ne peut pas forcément donner. Parfois, ce n'est pas juste un don de cellules, c'est plus que ça. Si vous vous dites que vous allez donner un enfant, voilà, ce n'est pas la peine. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des donneurs qui donnent leur sang, des donneurs qui ont l'habitude de donner. Voilà, après... j'ai plus...
Est-ce que y avait une question que je me posais tout à l'heure. On peut inciter plus de gens à donner, mais est-ce qu'on peut aussi inciter ceux qui donnent déjà à donner plus ? Parce que ça peut arriver qu'il y en ait qui soient, entre guillemets, des champions du monde du don de sperme. Est-ce que c'est aussi un bon moyen de renflouer les stocks ?
Alors, il y a des donneurs qui nous ont recontactés pour savoir si on avait encore besoin. Je dirais qu'on est limité en termes de naissance par donneur. Un donneur ne peut pas...
Il y a une limite légale
de... Voilà, il y a une limite légale de 10 grossesses par donneur. Donc, une fois qu'on a atteint cette limite, on ne recontacte pas forcément les donneurs. Mais c'est vrai que les donneurs, quand ils ont donné une fois, on ne les embête pas plus.
Faisons un petit rappel des infos vraiment pratiques à avoir. Qui est-ce qu'on peut appeler ? Est-ce qu'il y a des sites qui existent pour savoir comment ça se passe ?
Alors oui, donc vous pouvez aller sur le site du CHU de Caen. Vous pouvez aller sur le site de l'Agence de la biomédecine, là qui vous orientera vraiment très bien sur qui ça explique les modalités du don, le cadre légal et ça vous donne aussi les coordonnées de chaque centre. Il y a aussi le site des CECOS, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme.
Merci beaucoup Marie-Ange Clarotti d'être venue répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes donc docteur au CHU de Caen et non plus interne depuis un bon bout de temps. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Mais avant de terminer cette émission, c'est l'agenda de la semaine. Jeudi et vendredi, Radio Phoenix propose les rencontres sciences, médias et société. Ce sera au Campus 2 pour la journée du jeudi et au Dôme pour le vendredi. Pourquoi parler de science ? Quels sont les enjeux ? De quelle façon ? Comment allier éthique scientifique et éthique journalistique ? Ces deux journées sont là pour nous permettre de nous questionner et de réfléchir sur les pratiques radio. Pour toute question ou pour vous inscrire, n'hésitez pas à écrire à l'adresse sms@radiocampus.fr. Pour les fans de l'univers du jeu vidéo, le Dôme vous donne rendez-vous le samedi prochain de 14h à 16h pour un atelier assez original nommé « À fond les manettes ». L'objectif est le suivant, imaginez en 2 heures une manette originale adaptée à une situation donnée, et ce grâce à l'outil Maké, un circuit imprimable qui permet de transformer n'importe quel objet en manette. Si vous êtes intéressé, vous pouvez encore vous inscrire gratuitement sur le site du Dôme.
Et comme chaque semaine, petite recommandation reportage, rendez-vous ce soir sur Arte pour une enquête sur l'obésité. Certaines estimations projettent que d'ici 2030, la moitié de la population mondiale sera touchée par le surpoids, qui entraîne alors des lourds problèmes de santé comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, voire des cancers. Facteurs génétiques, environnementaux, nouveaux modes de vie et de consommation, l'obésité est une épidémie mondiale contre laquelle il est nécessaire de lutter. Cause du problème et solution, ce reportage est diffusé dès ce soir sur Arte à 20h55 et vous pouvez le regarder à tout moment sur arte.tv en replay.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions et celle-ci en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.